Des professeurs et des organismes LGBTQ+ déplorent une montée sans précédent des incidents homophobes et transphobes en milieu scolaire depuis un an. On commence à craindre pour la sécurité du personnel, notamment les enseignants et les enseignantes, et aussi celle des élèves. Un article publié dans le 24 heures la semaine dernière fait état de la situation et relate des exemples d'incidents homophobes ou transphobes assez déroutants. Et pour en discuter, on reçoit Marie Ouzeau, directrice générale du GRI Montréal. Rebienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel s'élève, Marie.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, on utilise toujours les pronoms féminins.
Absolument.
D'accord. Alors, un petit rappel. Le GRI, c'est quoi?
Donc, le GRI, Groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal, fait ce qu'on appelle, nous, des interventions dans les écoles primaires et secondaires de Montréal pour faire de la démystification des réalités LGBTQ+.
Alors, Marie, de quelle sorte d'incidents homophobes ou transphobes on parle ici? Est-ce qu'on a des exemples?
Bien, en ce qui concerne les interventions du GRI, nous, ce qu'on voit surtout, c'est une augmentation des commentaires homophobes et transphobes dans nos questionnaires. Donc, je vous ai dit groupes de recherche. Donc, on a aussi des questionnaires qui sont remplis par les jeunes à chaque fois qu'on les rencontre dans des ateliers, des questionnaires anonymes. Donc, ça facilite évidemment l'expression de toutes sortes de sujets. Et là, c'est clair qu'on voit une augmentation des prises de position et une légitimation des prises de position franchement homophobes et transphobes.
Mais comment on peut expliquer cette montée-là de cette haine? C'est assez récent, il me semble, non?
Mais nous, en fait, ce qu'on constate, c'est vraiment dans les 24 derniers mois, je dirais, que ça a vraiment décollé, malheureusement. Tu sais, dans le fond, l'école, c'est une mini-société, hein, donc ils sont perméables à ce qu'ils entendent autour. Et de façon générale, on voit dans les chroniques, dans les prises de parole publiques, sur les médias sociaux, sur les médias traditionnels aussi, de plus en plus de prises de position qui sont ouvertement homophobes et transphobes, qui remettent même en cause l'existence même des personnes trans, par exemple, des personnes non-binaires. Et les jeunes, ils entendent ça. Il y a aussi toute une remontée des mouvements masculinistes. Et oui. On sait que les mouvements masculinistes, forcément, ne sont pas très ouverts à nos réalités. Et des jeunes se font les émules de ces influenceurs-là. Et on le sent dans les classes, oui.
Mais moi, je peux témoigner qu'à cette émission, à chaque fois que nous faisons une entrevue avec une personne qui se dit non-binaire ou trans, très régulièrement, les commentaires que nous recevons sur les réseaux sociaux sont absolument hallucinants de haine. J'ai même désormais limité qui peut réagir à ce que je publie sur ma page professionnelle, parce qu'on en a assez de ça. Là.
Ça ne me surprend pas. Et en fait, même vis-à-vis de l'homosexualité, les commentaires qu'on entendait beaucoup moins avant sur « c'est contre nature »,« on a besoin d'un homme et d'une femme pour la reproduction », enfin des choses, tu te dis « mon Dieu, ça c'est vraiment des jeunes des années 2024 ». C'est étonnant.
Est-ce que le gouvernement du Québec a aussi sa part de tort ou de responsabilité, sachant on vient d'annoncer justement qu'on va désormais permettre le X, mais ça a été tout un débat, le comité des sages, des positions qui n'étaient pas nécessairement très, très fortes vis-à-vis les personnes trans et non-binaires?
Certainement. Moi, je pense en fait que n'importe quelle personne en situation d'autorité et en situation de prise de parole qui n'utilise pas ces prises de parole pour mettre au clair sa vision des droits humains qui sont en fait les sujets dont on parle ici, hein, donc les droits des minorités LGBTQ, entre autres, perd une occasion et donc a une responsabilité, en fait. Ça, c'est sûr et certain. D'entretenir le flou sur ce qui est légitime ou pas, ça augmente la possibilité que des personnes rejoignent ce mouvement puis donc expriment à ce moment-là leur opinion, puisque ça devient une question d'opinion.
J'allais demander en quoi aussi ces manifestations qui ont eu lieu cet automne. Il y a eu beaucoup de manifestations assez violentes par moment contre les personnes trans. Est-ce que ça joue ça aussi dans ce qu'on voit dans les écoles maintenant?
Oui, certainement. Encore une fois, c'est cette place dans l'espace public que prennent l'expression d'opinions extrêmes, je dirais. Bien sûr, ça a une influence sur nos jeunes. Donc, on en voit le reflet. Donc, avoir des interrogations, avoir besoin d'informations, d'éducation, ne pas connaître un sujet, ça, ma foi, c'est complètement légitime. Mais quand on voit des jeunes dans des écoles qui arrachent le drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel la journée du 17 mai pour le piétiner, moi, j'ai jamais vu ça. Au Québec, j'avais jamais vu ça.
Ouais. Alors, au GRI, vous faites de la sensibilisation. En quoi ça change maintenant votre action ou votre plan, votre façon d'interagir à l'école?
En fait, ça ne la change pas, ça la renforce, je dirais, parce que la particularité du GRIS, c'est de travailler sur base du témoignage. Donc, ce sont des bénévoles qui vont, dans le fond, ouvrir le dialogue avec les jeunes sur base de leur parcours, sur base de leur vécu, de leurs sentiments, de leurs émotions. Et à ce moment-là, on est vraiment en mesure de sortir, justement, des questions d'opinion. Ce que tu as vécu, ça n'est pas débattable. Hein. C'est voilà, la réaction de tes parents, comment tu t'es rendu compte de ta différence, comment tu as accepté ou pas dans les premiers temps. Donc, ce sont des questions qui ramènent en fait le sujet sur l'être humain. Et donc, nous, en fait, ça ne fait que renforcer notre vision que c'est la façon d'aborder ces questions-là pour ne pas qu'elles dérapent sur des questions de débat, en fait.
Mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas une question de sécurité? Est-ce que vous allez devoir changer, peut-être pour assurer la sécurité des personnes que vous envoyez dans les écoles s'il y a de tels événements?
En fait, bon, nous, on n'a pas encore eu, et je touche du bois au moment où je te parle, ce genre d'événement-là. Nos bénévoles sont toujours deux. Ils sont toujours dans une classe sous la supervision, je dirais, d'un professeur ou d'une personne responsable. Donc, les moments où ils pourraient être victimes quand même de violences physiques, par exemple, je les imagine peu, mais c'est sûr qu'on reste attentif. Ouais.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation-là?
Prendre parole. Je pense que c'est vraiment le temps que, ce que je dirais, j'appellerais la majorité silencieuse, donc ce qui est en fait la majorité des Québécois qui sont ouverts, en fait, à la diversité de façon générale, ben, prennent parole et ne laissent pas tout l'espace à cette minorité beuglante, j'ai envie de dire, et rappellent en fait quelles sont les valeurs de vivre ensemble qu'on veut avoir ici au Québec. Donc oui, prenez parole, soyez ouverts, oui, mais soyez ouvertement ouverts, dites-le.
Maintenant, pensons maintenant aux jeunes, parce que c'est vraiment eux que ça vise, les jeunes qui vivent ce qu'on appelle la dysphorie de genre, qui sont en questionnement et qui subissent ce genre d'événement-là, comment ça peut jouer pour eux autres?
Mais justement, donc en fait, c'est ça qui est vraiment très attristant, c'est que tous ces débats ont lieu comme si ces jeunes n'existaient pas. Mais ils sont là, ils existent, ils sont dans chaque classe du Québec, ils sont dans chaque école du Québec et ils entendent ces prises de position, ils voient leurs leaders, que ce soit les leaders gouvernementaux ou les leaders dans les écoles, certaines fois, qui soit ne prennent pas position, soit prennent des positions des fois carrément à l'opposé de leur intérêt. Et évidemment, pour eux, ben, c'est chaque fois une attaque directe, en fait. Même s'ils n'ont pas fait, entre guillemets, déjà de transition, de révélation, de dévoilement, eh bien, c'est certainement des façons de faire qui vont freiner le parcours qu'ils pourraient entamer pour être qui ils, elles et elles sont.
Donc, il y a des actions à prendre de la part de tout le monde. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander des actions de la part de nos gouvernements?
Mais très certainement. Des rappels à la charte, ce serait déjà un bon début de rappeler qu'on a des obligations
légales. Oui, mais quand ça ne fait pas, ils invoquent la clause dérogatoire, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Oui.
Ne me partons pas là-dessus. Oui, des rappels à la charte, des rappels de ce que c'est effectivement que la liberté d'expression, des rappels qu'il y a des limites à cette liberté d'expression, des rappels sur le fait que les minorités sont protégées au Québec et que c'est non négociable. J'aimerais entendre ça de la part de nos gouvernements, oui.
Je vais reprendre un slogan que j'ai entendu ou que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ça arrive, vous trouvez des bonnes choses là-dessus. La liberté d'expression n'est pas la liberté d'oppression.
Ah, c'est effectivement. Ça va. Excellent.
Ben, Marie Ouzeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Merci de l'invitation.
Marie Ouzeau, qui est directrice générale du GRIS Montréal.